Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du magazine Gestion de Fortune avec un plateau exceptionnel autour du thème « Quelle allocation post-Covid ?» Après une crise sanitaire aussi profonde qu'inattendue, un choc boursier aussi vif que rapide, l'économie mondiale apparaît profondément déstabilisée. Alors, allons-nous traverser une longue période de crise économique? Sommes-nous sur un scénario en V? Comment positionner son portefeuille? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai trois invités qui ont trois points de vue différents. D'abord, Matthew Morgan, qui est Product Specialist Multiactif chez Jupiter AM. Matthew, bonjour.
Bonjour.
Olivier Rinjar, Olivier, qui est Directeur des Investissements à la Banque Neuflis OBC. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Et puis, Shagir Manji, qui est directeur de la gestion chez As Gestion. Shagir, bonjour.
Bonjour.
Alors, messieurs, on va dans un instant aborder un peu votre vision de l'avenir. Comment vous voyez la fin de cette année 2020, qui pour le moment a été calamiteuse, et puis comment on se positionne au terme d'investissement pour 2021. Avant cela, j'aimerais quand même vous entendre sur comment vous avez appréhendé cette crise. En début d'année, en janvier 2020, quelle était votre vision des marchés? On fait un peu de rétrospective. Comment vous avez vécu ça? En janvier, qu'est-ce qu'on voyait dans vos maisons? Qui démarre? Qui se lance? Shagir.
Oui, alors, fin 2019, début 2020, nous étions dans l'idée qu'on aurait structurellement le ralentissement de l'économie mondiale, en particulier de l'économie US, car on avait une maturité du cycle qui était très avancée, et je dirais la fin de l'impact de la relance fiscale. Donc nous étions dans cette idée. Néanmoins, sur le premier semestre 2020, on pouvait avoir, selon nous, une reprise conjoncturelle dans l'industrie. Elle était liée évidemment à cet accord qui a été signé entre Pékin et Washington. Donc on pouvait avoir une reprise conjoncturelle sur le premier semestre 2020. C'était ça un peu notre vision, je dirais, du début de l'année 2020, avant la crise du Covid.
D'accord. Donc, une vision raisonnablement optimiste.
Oui, c'est ça, tout à fait. Cette partie optimiste venant de l'industrie qui a été fortement impactée avec les négociations commerciales.
Vous, Matthew Morgan, vous êtes chez Jupiter AM, vous êtes, on le rappelle, à Londres. En début d'année, votre vision de l'environnement mondial, c'était quoi?
C'était un peu pareil. Je dirais qu'on était optimiste avec réserve, c'est-à-dire qu'on partage le même optimisme vers le soulagement de tensions entre les États-Unis et la Chine.
D'accord.
Et en même temps, on ne voyait aucune raison pour laquelle le cycle économique allait se terminer dans l'avenir proche. Pas de stress dans l'économie, pas de stress dans l'emploi. Mais en même temps, on n'arrivait pas à prévoir une explosion de croissance. On est coincé depuis la dernière crise par le surendettement, etc. Donc, continuer dans ce monde de croissance faible, inflation faible, taux très bas.
OK. Grosso modo, c'était un environnement calme, ni croissance exubérante, ni effondrement, ni récession. Donc, on était raisonnablement optimiste, vous aussi, chez Jupiter AM. Olivier Rinjar, Banque Neuflis OBC, début 2020, on a quelle vision de l'environnement?
On a à peu près la même vision que ce qui vient d'être partagé, et cette vision s'appuyait sur une banque centrale américaine qui était relativement accommodante et également un accord commercial entre les États-Unis et la Chine qui était en cours de conclusion et qui devait permettre d'éviter d'une certaine manière une aggravation de la récession industrielle et donc permettre d'éviter une récession mondiale. Et donc à ce titre, on était légèrement surpondéré sur les actions et on privilégiait toujours les actions américaines au détriment des actions émergentes et européennes.
Voilà. Légèrement surpondéré sur les actions, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas un enthousiasme BA, on était confiant et on était exposé sur les marchés. À partir de quel moment, Olivier, et puis ce sera la même question pour Matthew et Shagir, à partir de quel moment, Olivier, vous vous êtes dit, il se passe quelque chose de grave sur les marchés?
Ah, on s'est dit qu'il se passait quelque chose de grave sur les marchés dès lors qu'on a vu que les marchés étaient en train de céder très violemment. Hein. Rappelons-nous que les marchés européens ont abandonné une quarantaine de pourcents en 15 jours de bourse, ce qui constitue tout de même la chute la plus rapide. Donc, d'une certaine manière, On n'a presque pas eu le temps de paniquer. Et on avait quand même l'impression qu'on était de nouveau dans un phénomène d'exagération qui caractérise d'une certaine manière le fonctionnement des marchés depuis quelques temps. Je vous rappelle quelques épisodes de très forte volatilité qu'on a eu au cours de ces dernières années, en particulier en 2018. Rappelons-nous qu'en février 2018, la volatilité implicite du marché américain est passée de 12 à 50 en 3 jours. Qu'en mars 2018, le taux 2 ans italien est passé de 0 à 2% en l'espace d'une dizaine de jours. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on est sur des marchés qui peuvent s'ajuster extrêmement violemment, et dans ces phases d'ajustement, on a généralement des excès.
Chagir Manji, Olivier Rajar nous dit voilà, c'est arrivé tellement vite, on n'a pas eu le temps de paniquer. Même chose chez la gestion, et surtout, est-ce que quand vous avez vu qu'il y avait ce cycle qui s'enclenchait, est-ce qu'on a réduit les expositions actions? Comment on a géré cette crise boursière chez As?
Oui, alors moi je vais vous donner un exemple concret sur un fonds qui est notre fonds patrimonial dont le benchmark exposition action est à 25. Donc fin décembre on était à 26, fin janvier on était à 23, et très exactement on a commencé à s'alléger la semaine du 24 février. C'est la semaine à partir de laquelle on a mis en place des couvertures sur les indices, tout en conservant notre exposition sur les valeurs de croissance, ce qui nous a amené fin février à avoir une exposition à 13% et au 13 mars, une exposition au plus bas à 7% sur ce portefeuille, puis reprendre progressivement l'exposition autour de 20% à fin mars. Donc, essentiellement par la mise en place de couvertures sur le portefeuille, tout en conservant, je dirais, notre stratégie d'allocation fondamentale, stratégie, je dirais, qui était basée sur les valeurs de croissance.
Donc, des réactions très tactiques. Oui, moi, quand je vous écoute, il y a eu un réglage, je sais pas en temps réel, mais il y a eu un réglage continu.
Oui, c'est ça, en fonction des informations, évidemment, mais également en ayant un œil sur la valorisation, tout en sachant que la valorisation, elle ne voulait pas dire grand-chose parce qu'on ne connaissait pas la suite, mais il y avait quand même un œil sur la valorisation. Souvent, le déclenchement des ordres d'achat et de réexposition sont le fait de valorisation et non pas d'anticipation de macroéconomique ou de tel événement, parce que là, on est complètement aveugle, finalement, par rapport aux événements.
Mathieu Morgan, chez Jupiter, même question, on réagit comment? Est-ce que c'est allé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de réagir? Est-ce qu'on a fait des mouvements tactiques continus? Ça s'est passé comment?
Oui, c'était un peu la même chose que Chagia nous avait expliqué. Je dois dire qu'au début, on était un peu long à réagir parce que, si vous me permettez un américanisme, we have seen this movie before. On pensait à la vache folle, à la grippe aviaire, à SARS. Donc, avec du recul, il me semble aujourd'hui que le virus était évident, mais à l'époque, c'était pas le cas. Mais l'important, dès que les marchés tombaient, on avait réagi aussi vite que possible en couvrant notre exposition aux actions, en achetant des actifs de refuge, etc. Mais je partage l'analyse de Chagir. On était aveugle et il fallait réagir de façon tactique pour protéger l'argent de nos investisseurs le mieux que possible.
OK. Bon, là, il y a eu ce coup de Trafalgar boursier. On a vu que les indices avaient bien réagi. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est la reprise économique. Et là, il y a quand même deux grandes écoles. Il y a ceux qui disent, oui, ça va être une reprise en V, c'est-à-dire que ça a chuté violemment et puis il y a une reprise en V. Alors, c'est vrai qu'on a en tête les États-Unis, on a vu le chômage augmenter de façon extrêmement rapide et puis se résorber tout aussi rapidement. Et puis, il y a ceux qui disent, qui sont plus circonspects, qui disent la reprise économique, elle va avoir lieu, elle va prendre du temps. Et il y en a même certains qui disent, on va être sur un scénario en double dip, on risque d'avoir de nouveau un coup de grisou d'ici la fin de l'année. Et j'aimerais savoir chacun de vous, comment vous positionnez entre ces deux thèses. Est-ce que ça va repartir, reprise en V, ou au contraire, double dip et reprise lente qui va prendre 6 mois, peut-être 9 mois, voire plus? Chagir?
Oui, alors nous, on n'est pas dans l'idée d'une reprise en V, c'est plutôt une reprise en U, avec
Oui.
l'horizontale du U qui va être plus ou moins longue et qui pourrait se transformer plutôt en racine carrée ensuite. C'est-à-dire qu'on aura la barre du U qui va reprendre, mais à un moment donné, on va de nouveau avoir une horizontale, tout simplement parce qu'on va rentrer structurellement dans les difficultés post-crise. Donc là, l'analyse, c'est ça, mais l'analyse côté ménage, évidemment. C'est le taux de chômage qui va être l'élément clé, le taux de chômage, le taux d'épargne. Donc c'est pour ça qu'on regarde de près l'évolution de l'indice de confiance des ménages aux États-Unis, en Europe. C'est un élément qu'on regarde de près aujourd'hui, évidemment, le marché de l'emploi. Et côté entreprise, je pense que les entreprises auront pour priorité le désendettement. Et donc on ira plutôt vers une faiblesse de l'investissement, à mon sens. Et tout cela nous rend plutôt prudents, je dirais, sur les prévisions économiques, car ces prévisions restent quand même totalement liées à l'évolution du virus. Et donc là, à court terme, les nouvelles sont encourageantes, mais au-delà de 6 mois, pour l'année 2021, on reste toujours très dépendant de l'évolution du virus.
Ok. Mathieu, outre-Manche, vous avez aussi la même vision circonspecte parce que le tableau de Chaguer-Manji est assez, on va dire, prudent, hein, on n'est pas dans
Ouais.
l'enthousiasme.
Oui, non, pas dans l'enthousiasme, mais il faut dire que par rapport à il y a même que 3 ou 4 semaines, le risque de deuxième vague du virus, de retour au confinement a beaucoup diminué. Et donc, ça nous donne un certain optimisme. Et cet optimisme a été évidemment partagé par les marchés, dont, si vous voyez si vous regardez les mouvements des 3 dernières semaines, peut-être jusqu'à cette semaine-ci. Mais pour nous, donc, il s'agit un peu d'une reprise en V, mais on est toujours un peu douteux. Je dirais que peut-être une V avec une aile droite qui s'enivre un peu, qui commence à courber. Et c'est-à-dire que pour nous, on a toujours pas encore vu les vraies conséquences des confinements du virus. Et donc,
D'accord.
on va commencer à voir les faillites plus tard dans l'année. La politique monétaire reste un instrument très imprécis. Et donc, il y aura des erreurs de politique des banques centrales et des gouvernements. Et donc, il faut être, je crois, il faut se méfier un peu de la reprise des marchés si rapide qu'on a vu récemment.
Ouais. Olivier Rinjar, chez Banque Neuflize OBC, au niveau macro, on anticipe
Alors,
quoi?
au niveau macro, on ne privilégie pas le scénario en V. On considère que nous allons avoir une reprise de l'économie mondiale qui va avoir des profils différenciés selon les régions, les pays et les secteurs. Pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord, on voit que l'épidémie ou la pandémie, hein, impacte à des moments différenciés
Il y a des régions du monde où la
Voilà.
France ne va pas être sortie d'affaire, hein.
On a d'abord eu l'Asie, puis l'Europe, ensuite les États-Unis. On voit que les États-Unis, c'est pas tout à fait sous contrôle. Et maintenant,
L'Amérique latine.
l'Amérique latine et la grande Asie avec la Russie sont particulièrement affectées. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en considération. Le deuxième élément à prendre en considération, c'est que malgré les actions incroyables des banques centrales et en particulier de la banque centrale américaine, on va avoir ici ou là des durcissements des conditions de financement. Alors on sait qu'aux États-Unis, le financement est désintermédié et passe principalement par le canal des marchés financiers. Par contre, en Europe, le financement passe principalement par le secteur bancaire qui va probablement durcir ses conditions de financement en raison d'une augmentation du risque de crédit. Et puis
On
le
a
troisième.
bien vu en France que certains établissements n'étaient pas toujours très disposés à suivre les incitations gouvernementales pour supporter les entreprises qui ont besoin de financement, hein. Donc pour vous, ça pourrait être le cas un peu partout en Europe.
Ça risque d'être le cas en Europe, un durcissement des conditions de financement, tout simplement parce qu'on a un facteur supplémentaire qui est l'augmentation des taux de défaut des entreprises et puis, in fine, une augmentation du taux de chômage. Donc, quand on essaye de synthétiser tout cela, on est pour l'économie américaine plutôt sur une forme de scénario en U. Pour pour l'économie, avec la deuxième pendule qui est quand même un peu aplatie. Pour l'économie européenne, nous sommes sur un scénario en W. Et pour les économies émergentes, on va avoir des différenciations qui vont être là aussi très très fortes selon les régions. Donc on a plutôt une perspective économique prudente.
C'est vrai qu'on a toujours cette forme de réactivité et de résilience sur les marchés américains. Hein. Quand ça plonge, c'est souvent les premiers à plonger. On l'a vu, on le sent bien au niveau boursier, on le voit bien au niveau du chômage. Et puis, c'est souvent eux qui ont tendance à les premiers bouger à la hausse, sachant qu'effectivement, en Europe, il y a peut-être moins de souplesse et les mouvements sont plus longs sans doute à se mettre en place. Côté taux, on voit quoi? Parce que ça fait quand même 3 ans. Ça fait à peu près 3 ans qu'on se dit les taux sont tellement bas, à un moment ça va remonter. Donc il est nécessaire de réduire ses durations, sa sensibilité. Et puis ben, voilà, ça fait 3 ans qu'on se dit que les taux devraient remonter, ils ne remontent toujours pas. Aujourd'hui, de nouveau, les banques centrales sont sur des politiques extrêmement volontaristes, c'est le moins qu'on puisse dire, au point que certains reviennent en disant l'hypothèse d'un retour d'inflation n'est pas invraisemblable. Vous voyez quoi, vous, messieurs, sur les taux?
Oui, alors, si vous voulez, je commence.
Oui.
Sur les taux, donc clairement, on a un ajustement actuellement qui est lié à deux éléments. D'une part, le rebond macroéconomique que l'on a actuellement à court terme, qui est tout à fait normal après les points bas. Et d'autre part, et surtout, je dirais, lié au plan de soutien massif qui ont été décidés par les différents États. Ça, c'est, je dirais, l'ajustement actuel des taux longs. Probablement, on ira en Europe, par exemple en Allemagne, ce n'est pas impossible, vers un taux allemand proche de zéro dans un avenir proche, au lieu d'avoir un taux négatif comme c'est actuellement le cas sur le 10 ans allemand.
Oui.
Si on ne croit pas trop à une reprise de l'inflation, bien au contraire, on pense toujours que les forces déflationnistes sont extrêmement fortes. C'est pour moi plus une crise de la demande que de l'offre. Et donc, il faut quand même penser qu'on aurait plus finalement encore une pression sur les prix à la baisse plutôt qu'une inflation, malgré les plans de relance et malgré, je dirais, la politique monétaire très accommodante. Et dernier point concernant les taux, il est clair que les taux sont pilotés avant tout par les banques centrales. Et l'objectif des banques centrales, évidemment, c'est de conserver des taux d'intérêt réels négatifs et donc surtout des taux nominaux qui restent inférieurs au taux de croissance nominale, de manière à avoir, je dirais, cette capacité de déficit public important. Donc on est bien dans une idée où les banques centrales accompagnent les différents États dans les plans de relance budgétaire. Vous savez qu'aux États-Unis, le déficit public prévisible fin 2020, compte tenu des derniers chiffres, c'est autour de 20%. En Europe, c'est des déficits publics autour de 10%. Il est clair que pour que ce soit supportable, il faut absolument que les banques
Il
centrales
faut, il faut, il faut garder les taux bas.
et les taux seront bas.
Mathieu Morgan, chez Jupiter AM, sur les taux, on a quelle vision?
Absolument d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Il y a des raisons structurelles qui ont duré même avant la crise, même avant la dernière crise, pour soutenir la déflation par rapport à l'inflation pendant longtemps. Nous-mêmes, il y a 2 ans, on se doutait que les taux allaient remonter. Moi, messieurs, on pourra imaginer que les taux restent vers zéro. Pas nécessairement négatif, mais vers zéro pour le reste de nos carrières. Et je m'attends aussi à ce que les taux américains convergent vers zéro, pareil à l'Europe.
Alors, donc, vous voyez, quand vous dites le reste de nos carrières, ça veut dire que vous voyez ça pour 10, 20, 30 ans, c'est ça?
Voilà exactement, parce qu'ils sont
Vous êtes un peu plus jeune que moi, donc c'est 20, 30 ans le reste de
Peut-être
votre carrière.
ça, mais ça dépend de ma carrière, évidemment. mais je dirais qu'il y a des raisons structurelles comme le vieillissement des populations, le surendettement des économies, des pays. Il y a Je vois pas de moutard pour changer cette situation pendant longtemps. Et en même temps, vous allez voir, comme on vient d'entendre, la coopération entre les États et les banques centrales pour baisser le coût des emprunts, pour faciliter l'emprunt public. Et je crois que c'est une situation qui va continuer pendant des décennies, sûrement des années.
D'accord. Qui n'ai-je pas encore entendu sur les taux, c'est Olivier?
Tout à fait, mais je vais être très bref puisque je partage ce qui a été dit. Hein. On a une problématique d'endettement des États qui est extrêmement importante et qui est là depuis plusieurs années, mais qui est en train de s'aggraver d'une certaine manière avec une dette publique américaine et européenne qui va dépasser les 100% du PIB au cours des prochains mois. On a donc besoin de conditions de financement extrêmement accommodantes et les banques centrales sont très clairement en train de l'indiquer, à l'image de ce qu'a fait la Banque centrale américaine hier en disant que son taux directeur resterait à 0% jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc le message est clair, ce qui plaide pour des taux longs qui restent bas pendant assez longtemps.
D'accord. OK. Donc au moins sur ce front-là, normalement, il n'y a pas de surprise. On va rester dans un environnement de taux bas. Avant d'aborder, on va bientôt aborder 2021. Concrètement, aujourd'hui, messieurs, sur vos portefeuilles patrimoniaux, c'est quoi, en grande masse, l'allocation? Jusqu'à quel point êtes-vous volontariste, entre autres sur les marchés actions, qui se lance, Chaguir?
Oui, alors actuellement sur un fonds comme Assépargne Patrimoine dont le benchmark est à 25% en actions, nous sommes autour de 33% en actions.
Donc vous êtes surexposé actions.
Oui, tout à fait. L'idée c'est qu'on a sur ces 33%, je dirais un petit quart sur des marchés internationaux avec une dominante sur des actions américaines et le solde est partagé, je dirais, essentiellement sur l'Europe. Dans sa généralité, mais avec un équilibre, je dirais, entre les valeurs liées au cycle économique et les valeurs dites de croissance défensive. Un certain équilibre entre ces deux valeurs, sachant que les contre-performances des deux dernières semaines ont été notables sur les valeurs de croissance, mais fondamentalement, on reste convaincu que ces valeurs ont quand même de l'avenir, et on a parlé tout à l'heure des taux. C'est un des éléments support, je dirais, de la valorisation de ces valeurs de croissance qui, certes, sont chères, mais qui sont dopées par ces niveaux de taux particulièrement bas. Et le solde du portefeuille…
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. 35% actions et le solde, on est en cash ou…
Alors, 33 en actions, 17 en cash et 50 en obligations. Alors, pour la partie obligataire, c'est environ… 60% de cette poche, ce sont des obligations, je dirais, short duration sur le compartiment du high yield, avec des obligations très courtes à 12 mois. Ouais. La visibilité du cash de la société nous permet d'être serein tout en ayant des rendements attrayants. Là, on est sur le segment du high yield euro.
D'accord.
Et le reste, c'est plutôt des obligations très défensives, investment grade, où on considère que la corrélation est plus forte avec les taux souverains et donc moins de risques sur les faillites d'entreprises qui pourraient venir avec décalage, comme on le fait souvent, les faillites d'entreprises, on les a avec 6 mois, 9 mois,
oui,
1
bien
an.
Sûr.
Et donc, nous sommes prudents sur le high yield, sur la classe globalement du high yield. Et c'est pour ça qu'on est uniquement sur la partie vraiment duration très courte concernant cette catégorie d'obligations.
Olivier Rajard, sur un portefeuille, on va dire, à vocation patrimoniale, c'est quoi, en grande masse, votre allocation et entre autres, hein, bien sûr, la question, c'est votre appétence pour le risque action.
Ce que l'on a fait au mois de mai, c'est qu'on a réduit le poids des actions. On est globalement dans notre politique d'investissement sous-pondéré aujourd'hui sur les actions, ne souscrivant pas au scénario en V. Et si on regarde...
Alors vous dites qu'on est sous-pondéré, concrètement vous êtes à combien par rapport à un bench qui est...
Sur un portefeuille patrimonial, aujourd'hui, on est à autour de 23% d'actions.
D'accord.
Voilà, par rapport à un benchmark action autour de 30%.
D'accord.
Sur la partie... Alors, avec une forte diversification entre l'Europe et le reste du monde, et en particulier les États-Unis, où on est quand même assez exposé. Sur ces 23%, on a presque 10% d'actions américaines. Le solde étant obligataire, monétaire et produit alternatif. Donc sur l'obligataire, on a autour de 34% d'obligations qui sont réparties entre des obligations d'État corps pour une dizaine de pourcents, des obligations d'entreprise pour une vingtaine de pourcents, investment grade, un peu de diversification sur le high yield et la dette émergente à hauteur de 3%. Et puis enfin, donc on a du monétaire pour 30% du portefeuille et des produits alternatifs pour 11% du portefeuille.
On reviendra sur ces produits alternatifs. Last but not least, Matthew Morgan, sur un portefeuille patrimonial un peu central chez Jupiter AM. C'est quoi aujourd'hui, hein? On parlera tout à l'heure de 2021. Aujourd'hui, on se positionne comment?
Oui, notre benchmark, c'est 60% obligataire, 40% actions, donc surexposition high yield et investment grade, parce que c'est un
Ouais.
fonds qui vise à payer un rendement régulier, un income. Et donc, je peux faire trois points. D'abord, un peu comme chaque year, on est toujours content d'avoir de tenir le high yield investment grade, mais avec des obligations défensives, portefeuille plutôt conservateur, short duration. Deuxièmement, dans les actions, on est très technique en ce moment. En ce moment, on est vers notre benchmark, donc vers 40%, mais ça change de façon assez tactique dans ce monde si volatile.
Ouais.
Et troisièmement, on travaille sur la diversification. Jusqu'à la crise, en fait, le rendement des obligations américaines, les bons trésors, vers 2%, comme actifs diversifiants, ils étaient assez puissants, assez attirants. À 70 basis points, c'est pas la même chose. Donc, on travaille plutôt on les a toujours, mais pour la diversification, on travaille dans les devises. On est short baht thaïlandaise, long peso mexicain, long dollar australien, etc. Donc, on essaie de faire des choses différentes pour ajouter la diversification dans le portefeuille, dans un monde où la diversification devient toujours beaucoup plus difficile.
Mathieu, c'est vous tout à l'heure qui nous disiez les taux bas vont rester pour le reste de notre carrière. Alors, il peut y avoir un peu de volatilité, il peut y avoir un moment un peu, mais concrètement, ça veut dire que vous, dans votre portefeuille un peu central, patrimonial, vous n'avez pas de problématique de sensibilité, de duration. Vous n'hésitez pas à aller sur des durations longues, en bonne logique.
Non, enfin, mais depuis dans la vie du portefeuille, la duration a été entre 0 et 12 ans. Aujourd'hui, on est à 3 ans. Donc, on a toujours un peu de duration, mais moins que dans l'histoire. Et donc, cela va continuer. Difficile à avoir de grandes positions de long duration, sauf si vous prévoyez un vrai crack à la baisse des marchés, où vous voyez que les investisseurs vont être obligés d'acheter des bons. On les a parce qu'on voit toujours la convergence vers zéro, mais ça va prendre du temps. Et à 70 basis points, vous n'avez pas trop de marge pour une erreur. Vous avez toujours la possibilité d'un crack à l'os.
On sent bien quand vous écoutez tous les trois, il y a cette problématique de la diversification. Vous, Mathieu, vous dites très clairement, voilà, on essaye de diversifier, mais c'est compliqué. Tout à l'heure, Olivier Ringard disait, bah oui, on va aussi vers de la gestion alternative. C'est vrai que c'est pas toujours simple, depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, hein, c'est pas toujours simple aujourd'hui de faire de la diversification. Olivier, est-ce qu'on peut revenir sur cette poche de gestion alternative? Vous pouvez nous rappeler ce qu'elle pèse et puis concrètement ce qu'on met dedans?
Elle pèse à peu près une dizaine de pourcents, donc
Ah oui, c'est pas négligeable.
c'est pas négligeable, mais comme vous le dites très bien, il y a une problématique de construction d'allocation d'actifs aujourd'hui, hein, qui est liée au fait que les espérances de rendement des classes d'actifs sans risque sont désormais proches de zéro, aussi bien en Europe, mais également aujourd'hui et sans doute demain aux États-Unis. Donc on essaye de trouver des solutions de diversification via cette gestion alternative qui éprouve tout de même, hein, des difficultés à générer des performances résilientes par rapport à ces actifs sans risque. Et on a vu que dans cette crise, on a quand même une gestion alternative qui a été qui a été sous pression, en particulier les solutions long short equity. Donc il faut, dans ce cadre-là, faire de la même manière qu'on fait du stock picking et du bond picking, il faut faire du fund picking, on va dire, le plus qualitatif possible.
C'est toujours la difficulté quand on est dans des environnements peu lisibles sur lesquels les anticipations sont complexes. Chaguir, ce souci de la diversification, j'imagine que comme vos confrères, vous le partagez. Est-ce que chez As Gestion, il y a un intérêt particulier pour ce qui est gestion alternative? Et si oui, ça prend quelle forme?
Oui, alors le souci de diversification, effectivement, il est clair qu'on l'a et c'est assez compliqué, comme ça vient d'être dit. Trouver des supports qui peuvent être décorrélés des marchés actions, ce n'est pas facile aujourd'hui. Alors nous, on a deux pistes. Hein. On a exploité ponctuellement l'or comme une source de diversification et on conserve l'idée que malgré les niveaux de rendement bas, les emprunts d'État américains peuvent être, je dirais, un moyen d'avoir une allocation diversifiée face à des actions. On le voit à chaque fois que c'est un élément de valeur refuge qui peut s'opérer. Donc, je dirais les emprunts d'État plutôt US et l'or peuvent être des sources de diversification aujourd'hui. Mais clairement, c'est une des problématiques de l'allocation aujourd'hui.
OK, on voit aujourd'hui comment vous entre guillemets, vous naviguez. 2021, est-ce qu'on y verra plus clair? Si la situation économique s'assainit, si on n'a pas de nouveaux cracks, on ne sait pas d'où ça pourrait venir, mais on voit bien que parfois c'est imprévisible. Donc, partons du principe que le deuxième semestre 2020 est un semestre de recovery au niveau macroéconomique. 2021, ça sera quoi? Dans le meilleur des mondes, si tout se passe bien, ça sera quoi votre vitesse de croisière? Ça sera très différent en termes d'allocation que ce qu'on a aujourd'hui? Qui se lance, Mathieu?
Oui, bien sûr. Pas trop différent encore aujourd'hui, je ne sais pas. Pour nous, notre cas de base, c'est qu'en retour, après la crise, je ne sais pas si c'est vers la fin de 2020 ou enfin, en mi-2021, on ne sait pas encore. On est vraiment dans l'hypothèse en ce moment, c'est une période d'inflexion aujourd'hui. Mais notre cas de base, c'est qu'en retour à cette période, de cette époque de croissance faible, de croissance assez stable quand même, caractérisé par, comme je vous ai dit déjà, le surendettement des économies, la tension entre les États-Unis et la Chine. Donc, il va toujours avoir de la volatilité, mais de toute façon, on va retourner à ce monde de croissance faible, mais continue. Et donc, pour nous, il s'agit d'avoir toujours une exposition aux actions qui va rester très flexible, mais on sera, j'imagine, très content de continuer d'avoir nos expositions dans le crédit, dans le haut rendement, mais parce que dans ce monde de taux d'intérêt, on ne voit pas de problème pour les entreprises de payer leurs dettes.
OK. Chaguir, 2021, ça va ressembler à quoi?
Oui, alors, n'oublions pas déjà que les marchés anticipent. Donc, si on devait avoir un rebond en 2021, on l'espère tous, hein, de toute façon, il devrait y avoir un rebond significatif en 2021. Les marchés anticipent, donc dans ce cas, on aurait déjà, je dirais, probablement un rallye en fin d'année 2020. La problématique, c'est que la hausse des marchés ces derniers temps, ces dernières semaines, a été très forte et que le potentiel à court terme me semble assez réduit. Les marchés sont un peu chers à court terme et sa capacité, je dirais, à absorber les mauvaises nouvelles est faible et la consolidation pourrait se poursuivre. Mais au-delà, pour revenir sur l'année 2021, il me semble qu'il y a les élections américaines. C'est un élément très important. Pourquoi? Parce que l'ensemble des croissances dans les différentes zones vont être très dépendantes de la mise en place des plans de relance, de la réalité des plans de relance. Et les taux de croissance vont être très corrélés, je dirais, aux plans de relance. Et donc, c'est ça qu'il faudra regarder. D'une part, et d'autre part, évidemment, la valorisation des marchés. C'est ces deux éléments qui vont nous guider vers l'idée qu'on aurait une accélération de la hausse boursière ou finalement une consolidation. Plan de relance ou pas, et élection américaine dans ce cas, une importance non négligeable,
et la valorisation des marchés.
Olivier Rajard, même question, horizon 2021. Si on a assisté à une recovery, macroéconomique, ça sera quoi votre vitesse de croisière? Ça devrait être quoi?
C'est une bonne question, mais malheureusement, il est très difficile d'y répondre. Quelques éléments de réponse. D'abord, on est sur des perspectives de croissance de l'économie mondiale pour 2021 qui sont inférieures à ce qu'attend le consensus. On attend pour l'économie américaine l'année prochaine une croissance de 3,4% et pour l'économie européenne une croissance de 2,2% avec un affaiblissement de cette économie européenne de nouveau à la fin de l'année après un rebond au troisième trimestre. Donc ouais, on est déjà plutôt prudent sur le scénario économique. À partir de là, on en déduit que on va avoir un régime de volatilité qui devrait être assez élevé au cours de ces prochains trimestres. Et régime de volatilité qui sera alimenté par, au-delà de la problématique économique, par deux autres facteurs. D'abord, les actions des gouvernements et des banques centrales. Ensuite, le risque politique. Et il ne faut pas oublier qu'on est en année d'élection américaine qui va retenir l'attention des investisseurs, probablement à partir du mois de septembre, avec un président Trump qui pourrait mettre un peu le monde sous tension. Donc ça sera évidemment un élément à suivre. Donc ce que l'on anticipe pour les prochains mois en termes d'évolution de politique d'investissement, c'est une politique d'investissement qui est pour l'instant prudente compte tenu des niveaux de marché et qui essaiera de profiter des mouvements de volatilité qui sont très probables au cours de ces prochains mois.
Alors, les uns et les autres, et on a tous cette vision, vous êtes très, je dirais pas américano-centré, mais c'est vrai qu'on a tous tendance à se dire, c'est un peu les États-Unis qui donnent le tempo sur les marchés financiers mondiaux. Est-ce que on n'a pas assisté, c'est une question ouverte, est-ce qu'on n'a pas assisté au cours des derniers mois, des dernières semaines, des derniers trimestres, à un affaiblissement de cette suprématie américaine en termes soit réels, soit en termes d'image? Et est-ce qu'on ne voit pas s'accélérer la suprématie de l'économie chinoise? Si on n'est pas un peu sur un shift, un changement de paradigme? Mathieu?
Pour nous, pas encore.
Ça veut dire que c'est quelque chose que vous anticipez?
Peut-être plus tard dans l'avenir, mais pour l'instant, pas que le marché américain, c'est le seul qui compte, mais c'est presque. Dans l'analyse macro, on passe entre 60 et 70% de notre temps en analysant l'économie américaine.
Et, d'accord.
Exemple, dans le Covid, en ce moment, on focalise sur les chiffres concernant le virus aux États différents des États-Unis. Ça ne veut pas dire que l'Europe, la Chine ne sont pas importants, bien sûr,
mais les États-Unis restent un peu le marché qui donne le tempo. C'est ça, hein?
Oui, bon. et le changement de l'image des États-Unis, etc., c'est l'image, c'est aux marges, ça ne change pas le fait que c'est le premier moteur de l'économie mondiale.
Ok,
ça va continuer pendant des années, peut-être un ou deux décennies avant que la Chine devienne aussi importante.
Olivier Rajard, même question. Est-ce qu'on reste chez Neuflys-OBC sur cette vision, pas traditionnelle, mais qui est devenue un peu classique, des États-Unis qui sont un peu le tempo des marchés mondiaux, ou est-ce qu'on fait partie de ceux qui pensent que le déclin américain est déjà bien avancé et qu'on voit déjà la suprématie de l'économie chinoise poindre?
Si on se détache de la problématique, on va dire, géopolitique, quand on regarde le comportement des marchés sur ces 10 dernières années, le marché américain a nettement surperformé le reste du monde, et en particulier grâce à sa force technologique et à ses fameuses GAFA. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on s'aperçoit que le marché américain, effectivement, reste plutôt le marché leader, et on le voit de nouveau dans cette crise, où le marché américain était celui qui a le plus rebondi. Néanmoins, un bémol à apporter à cela, c'est que le marché américain aujourd'hui peut être plus facilement influencé par ce qui se passe dans le reste du monde. Oui, on a eu différents exemples de cette influence extérieure sur le marché américain au cours de ces dernières années. On a eu d'une part, au début des années 2010, la crise de la dette de la zone euro, et puis on a également la Chine qui peut avoir une influence sur ce marché américain, à l'instar de ce qui s'était passé quand le yuan avait violemment baissé au cours d'un été. Donc oui, le marché américain reste leader, mais il devient de plus en plus dépendant de ce qui se passe dans le reste du monde. J'ai presque envie de dire naturellement, hein, puisque le poids des économies émergentes et en particulier de l'économie chinoise ne cesse de progresser.
Ok, c'est clair. Shagir, sur cette problématique de la centralité de l'économie américaine, votre sentiment, est-ce que vous pensez que ça reste central ou que ça a perdu un peu de sa prééminence?
Alors, il me semble que l'économie américaine reste toujours, entre guillemets, la locomotive du monde en termes macroéconomiques, puisque les États-Unis, c'est un très gros déficit et que le consommateur américain est toujours la locomotive au niveau mondial. À l'inverse, la Chine, avec ses excédents, bien entendu, c'est un poids économique important, mais ce n'est pas la locomotive mondiale, à mon sens. Sauf certaines catégories comme les matières premières, mais globalement, pour moi, le consommateur américain reste la locomotive mondiale. Donc, je pense que sur le plan économique, je pense que la suprématie américaine, la bourse américaine en termes de PIB au niveau mondial également, c'est un facteur à regarder, c'est un poids lourd extrêmement important. Donc, d'un point de vue économique, je dirais que la suprématie américaine, elle perdure, elle va perdurer sûrement très longtemps. Alors, d'un point de vue géopolitique ou politique et géopolitique, c'est une autre question. Et là, je ne sais pas trop, mais clairement, aujourd'hui, la Chine prend des galons, je dirais, et est en train de rentrer dans de grandes institutions. Et comme ça l'a été signalé tout à l'heure, quand on a eu cette phase de dépréciation du yuan contre le dollar, effectivement, il y a eu un impact important sur l'économie mondiale et en particulier sur l'économie américaine. Mais je pense que pour le moment, l'économie américaine est très dominante, clairement, sur la Chine.
C'est clair. Mais si on aborde la dernière ligne droite de ce podcast, il me reste quelques questions. Une question que j'aime bien poser aux gérants, aux allocataires, c'est votre tiercé gagnant, votre tiercé perdant. Alors, on va pas parler de valeur, mais plutôt en termes de classes d'actifs. Quelles sont les trois classes d'actifs aujourd'hui dont vous dites, voilà, j'y vais, pas les yeux fermés, mais j'y vais avec un taux de conviction très fort. Et puis à l'inverse, quelles sont les trois classes d'actifs où vous dites, c'est peut-être bien pour mon voisin, mais c'est pas pour nous. Qui veut se lancer sur les... Olivier, vous tentez l'exercice? Vous
Je vais
relevez
tenter
le challenge?
non, je vais relever le challenge, mais je vais m'intéresser principalement à la classe d'actifs actions, qui reste la classe d'actifs actions, qui reste la classe d'actifs qui offre l'espérance de rendement la plus importante à un horizon moyen-long terme comparativement à toute la sphère obligataire. Et au sein de cette classe d'actifs actions, si je devais me concentrer sur les régions, notre tiercé gagnant aujourd'hui reste d'abord les États-Unis, ensuite les émergents, et puis en dernier, l'Europe.
Émergents, tout confondu, ou plutôt émergents, focus Asie, focus Chine.
On est plutôt émergents Asie.
D'accord. Ok. Donc le tiercé, c'est US, Asie, Chine et puis Europe. Et puis le tiercé perdant, les classes d'actifs dont vous dites, bah, nous on reste à l'écart parce que c'est pas pour nous.
Alors sur le tiercé perdant, on resterait aujourd'hui, alors je vais essayer de le sachant que déjà dans mon jeu relatif entre les États-Unis et l'Europe, il y a quand même des
Oui, on
gagnants et
va
des
dire.
perdants.
Ouais.
Mais sur le tiercé que l'on évite aujourd'hui, c'est tout ce qui est financière. On est
D'accord,
plutôt
parce que des cadavres dans les
et absent du
placards,
secteur
l'endettement.
financier. Oui, parce que politique de taux bas pendant très longtemps qui affecte non seulement l'Europe, mais également désormais les États-Unis, parce que augmentation des provisions en raison d'une augmentation du risque de crédit. Voilà les deux principaux facteurs explicatifs de court terme de la raison pour laquelle on sous-pondère les
Financière.
financières. Voilà. Et on est on va dire, relativement prudent sur les secteurs les plus cycliques et en particulier sur le secteur énergétique.
D'accord. Donc aujourd'hui, prudence sur financière et le secteur énergétique. Chaguire, même exercice, tiercé gagnant et puis tiercé perdant.
Oui, alors sur le tiercé gagnant, nous, tout d'abord, ça a été signalé, nous avons une préférence très claire sur les actions au détriment du crédit et des obligations. Je pense que clairement, c'est là où on a encore de la valeur. Et notre tiercé gagnant, ça serait probablement l'Europe où on aurait pour nous une réduction de la décote politique grâce à, je dirais, ces premiers pas vers une mutualisation des dettes. Alors, c'est un plan de relance qui est à confirmer au prochain sommet européen, mais ces premiers pas vers une mutualisation nous permettent d'être un peu plus optimistes et je dirais, on pourrait avoir une petite réduction de la décote en termes de valorisation qu'on a eue avec les marchés américains. Donc, plutôt l'Europe dans un premier temps. Le deuxième thème, c'est toujours le digital, qui est le grand gagnant de cette crise, une accélération de la digitalisation à travers les différentes sociétés et les différents secteurs. Donc, ça reste quand même un point fort dans notre gestion. Et le tiercé perdant, je dirais que c'est d'abord et avant tout le critère des bilans des entreprises, c'est-à-dire que les valeurs très endettées aujourd'hui, d'une façon générale, quelle que soit leur zone géographique, on est très très prudent. Ce sont des valeurs qu'on n'achètera pas. Ça, c'est les premiers. Les deuxièmes catégories de classes d'actifs, je dirais que c'est les émergents, les zones émergentes avec des déficits courants ou très liés aux matières premières, donc très volatiles. Là
Donc
aussi,
les pays, les marchés comme la Russie,
voilà, tout à fait. Et puis la troisième catégorie, je dirais, c'est le high-yield parce que on pense qu'on sous-estime les défaillances d'entreprises qu'on aura et en 2021, probablement pas avant 2021, mais on en aura. Et on sous-estime ces défaillances d'entreprises liées à cette récession qui a été quand même très profonde et très forte.
Juste une petite question technique, Chaguire. Vous dites défaillances d'entreprise dans le viseur qui vont arriver pas avant 2021. Pourquoi il va y avoir cette inertie à cause des plans de soutien, des prêts gouvernementaux, c'est ça?
Alors, déjà dans
Vous
le
pensez que ça va
passé,
retarder le phénomène?
oui, alors c'est assez classique dans le passé. Quand on regarde les phases de récession et les défaillances d'entreprises, il y a toujours de toute façon un décalage, quelques trimestres de décalage. Simplement parce qu'au départ, on essaye via la trésorerie, on essaye de consommer la trésorerie, on essaye d'ajuster son point mort, mais in fine, fondamentalement, on n'arrive pas à recréer de la valeur et du chiffre d'affaires. Mais là, il y a un élément supplémentaire, c'est que les États sont intervenus massivement pour aider, entre guillemets, les BFR des entreprises et le chômage partiel en Europe et l'aspect, je dirais, chèque qu'on a eu aux États-Unis, le corollaire. Et donc, tout ça a permis de repousser les problématiques des entreprises déjà fragilisées, souvent des entreprises déjà fragilisées avant la crise du Covid. Et donc,
D'accord.
je mets quand même à beaucoup, beaucoup de problèmes sur des entreprises très fragilisées aujourd'hui à l'horizon 2021, premier semestre 2021.
Allez, Mathieu Morgan, chez Jupiter AM, votre tiercé gagnant et votre tiercé perdant.
Oui, merci. Je partage la plupart de l'analyse de mes homologues, mais juste pour essayer de me différencier un peu. Je vous ai déjà parlé de cette vision macro d'un monde de croissance faible après la crise. Et donc, dans ce moment-là, ça, pour nous, on soutient le crédit par rapport aux actions, parce que enfin, les entreprises ne vont pas avoir des difficultés de payer leurs dettes, mais la manque de croissance ou la croissance faiblesse ne justifie pas les marges des entreprises. Et donc, on ne soutient pas la hausse des marges des entreprises. Donc, pour nous, dans le crédit, évidemment, le crédit est déjà cher. Donc, il faut chercher un peu autre part. On aime le crédit des marchés émergents, classe d'actifs pas très bien connue, qui a toujours des améliorations de gouvernance et un rendement très attirant. Aussi, le crédit des entreprises financières. On avait déjà parlé de les liens serrés entre les banques, par exemple, et les banques centrales et les gouvernements.
Oui.
Ça va continuer à soutenir les banques, mais pas les actions, on parle du crédit. Et enfin, à long terme, je partage l'analyse dans les actions, le succès des États-Unis, les entreprises de technologie, mais pour nous, il ne s'agit pas de l'investissement passif dans les actions. L'incertitude, la volatilité qu'on prévoit dans les marchés dans les années à venir, il faut toujours être flexible et tactique au niveau des actions. Le tir, c'est perdant, comme je dis, close to home. Je peux parler du livre sterling. Vous avez l'incertitude du Brexit. C'est une incertitude qui pourra, sur le plan économique, qui pourra durer pendant des années. Vous avez aussi le fait que le taux des obligations britanniques est tombé beaucoup dans la crise. Et donc, la demande pour le livre sterling va continuer à se diminuer. Donc, on est short du livre sterling. Je vous ai dit déjà, je crois qu'on va devoir me payer un pot quand je viens en France parce que le livre sterling va continuer à tomber. Autrement,
on va vous accueillir, Morgane.
Merci. Dans l'avenir, il faut aussi faire attention au résultat du scrutin américain en novembre, parce que si vous avez Biden qui gagne la présidentielle et si les démocrates arrivent à prendre le Sénat, vous allez peut-être voir de la régulation sur les monopoles de technologie et également sur la santé. Et donc, ça va pas avoir des conséquences importantes pour ces États. Et si c'est Trump qui continue, il faut penser à la démondialisation et l'effet sur les grandes entreprises mondialisées.
C'est très clair. Messieurs, on va bientôt conclure. Pour conclure, j'aimerais vous demander, en synthèse, on ne va pas se lancer dans le débat, mais quels sont les grands messages, chacun, que vous avez envie de partager avec les partenaires, avec les investisseurs, avec les conseillers avec lesquels vous travaillez. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire s'il y a une, deux, trois, maximum quatre idées? C'est quoi ces grands messages? Olivier Ringard, chez Banque Neuflis OBC, vos messages aux partenaires, aux conseillers, c'est quoi?
J'en aurai deux. Le premier, c'est celui de dire que le monde d'après, puisqu'on parle beaucoup du monde d'après, ne sera pas nécessairement différent du monde d'hier, en tout cas sur le plan de l'investissement. Et en particulier lorsqu'on s'intéresse à la problématique de la construction de l'allocation d'actifs, elle reste particulièrement aiguë, on l'a déjà évoqué, avec tout un pan des actifs investissables, et donc en particulier tout l'obligataire souverain, qui délivre des rendements escomptés nuls à négatifs pour les années à venir. Et puis le deuxième message, c'est celui qui consiste à dire qu'il est absolument nécessaire de diversifier au maximum son allocation d'actifs et donc d'utiliser toutes les classes d'actifs traditionnels qui sont à notre disposition. Donc là, on pense évidemment à la dette émergente, par exemple, mais également à la dette high yield. Et puis, il faut également avoir recours aux actifs non traditionnels ou aux produits plus sophistiqués. Et on pensera ici, naturellement, aux private equity ou aux produits structurés. Et ce n'est qu'en réussissant à avoir une très, très bonne diversification de son allocation d'actifs que l'on parviendra à évoluer dans cet environnement qui est, somme toute, assez compliqué d'un point de vue de la construction de l'allocation d'actifs.
Olivier, en vous écoutant, j'ai le sentiment qu'on a classiquement une vision, on se dit quand on construit le portefeuille, il y a le cœur, le satellite, le cœur c'est l'essentiel, c'est le gros, puis le satellite c'est de l'accessoire. En vous écoutant, on a l'impression que, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il faut accorder plus de place à ce que vous considérez jusqu'à présent comme du satellite?
C'est exactement cela.
Ok, c'est clair. Mathieu Morgan, pour conclure, les deux, trois ou quatre messages, convictions que vous avez envie de partager avec les investisseurs et les conseillers, c'est quoi?
Oui, pour les investisseurs, ils viennent d'expérimenter une crise inouïe. Je crois que le message important, c'est que la bonne nouvelle, c'est que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête.
Okay.
Mais en même temps, on va continuer avec ce monde je vous ai dit plusieurs fois maintenant, de croissance faible, de l'incertitude et la volatilité va rester élevée, vous les incertitudes sur le plan politique entre la Chine et les États-Unis, dans le progrès de l'Union européenne, etc., etc. Et donc, pour nous, il s'agit toujours de pouvoir être très actif quand on pense à l'allocation des actifs, pouvoir être flexible et pouvoir réagir vite aux changements dans le monde. Et donc, pour cela, pour nous, il s'agit d'un processus multi-actif qui reste très flexible et très actif.
OK. Donc, diversification, flexibilité, le mot de la fin vous revient, Shagir Manji, chez Agestion. Les deux, trois messages que vous avez envie de conviction que vous avez envie de partager avec les investisseurs et les conseillers.
Oui, alors, trois messages. D'une part, bien se poser la question de l'horizon d'investissement parce que ça permet de bien calibrer le niveau de risque. Ça, c'est très, très important aujourd'hui, compte tenu de la volatilité qu'on aura sur les marchés. Le deuxième message, c'est la diversification. Et pourquoi la diversification? C'est que je suis persuadé qu'on ira vers un peu plus de désynchronisation de la croissance mondiale dans les différentes zones. La raison, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette croissance sera assez dépendante des plans de Roland parce qu'elle est un peu en maturité finale et donc elle va être constamment relancée pour essayer de la faire tenir. Et donc, il y aura une forme de désynchronisation suivant les zones géographiques. Et le troisième point, c'est cette flexibilité mobilité dont on a parlé. Je pense que la partie tactique du portefeuille doit être non négligeable afin de s'adapter à ces moments de court terme liés à cette volatilité importante des marchés.
Shagir, merci. Messieurs, merci à chacun de vous de vos contributions et de votre participation à ce podcast sur les allocations à mettre en place dans un environnement post-Covid. Et puis, on se retrouve dans 6 mois pour faire le point, tirer les enseignements et voir jusqu'à quel point la reprise économique a été difficile ou au contraire, si elle s'est bien renclenchée. Messieurs, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.
Merci.
Merci, au revoir.